Le fraise framboise de France.
France Inter,
première radio de France.
Vous êtes bien sur Inter, et il est midi. Les infos, Laetitia Gaillet.
Comme à l'école supérieure de journalisme de Lille, les forces de l'ordre se sont postées devant les principaux bâtiments de Sciences Po Paris ce matin. Les rues ont été bloquées. Les bâtiments étaient occupés par quelques dizaines d'étudiants mobilisés pour Gaza, dont certains qui ont décidé d'une grève de la faim après le débat interne d'hier. Les étudiants de Sciences Po reprochent à la direction de l'institution de ne pas couper les liens avec les universités israéliennes. Bonjour Timur Özturk.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Timur, vous êtes sur place et la police finalement, après s'être posté devant, a décidé d'évacuer les lieux.
Oui, l'intervention de la police est en cours. Deux premiers étudiants, une vingtaine, sont sortis dans le calme rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement de Paris. Site historique, occupé à nouveau depuis hier soir, dont les accès sont donc bloqués par des fourgons de forces de l'ordre et plusieurs dizaines de gendarmes mobiles. Ils font face à quelques dizaines d'étudiants. Beaucoup portent des képiés. Ils sont venus soutenir leurs camarades à l'intérieur. Vous les entendez derrière moi. Une banderole flotte toujours sur la façade du bâtiment, mais la plupart des drapeaux palestiniens ont été décrochés. A priori, des étudiants sont toujours à l'intérieur. Certains sont en grève de la faim depuis hier. En tout, une dizaine qui refusent de s'alimenter, dont certains se trouvent sur un campus délocalisé à Reims. Des étudiants pro-palestiniens réclament la rupture des relations entre Sciences Po et ses universités partenaires en Israël. Ils veulent continuer leur mouvement tant que la direction ne les aura pas entendus sur ce point.
Timur Özturk à Paris devant Sciences Po. Merci. Il y a d'autres manifestations d'étudiants en soutien avec les Palestiniens et Timur en a parlé un peu à Grenoble, à Lyon, mais aussi Poitiers ou encore Reims. Par ailleurs, plusieurs organisations humanitaires, dont Médecins du Monde et Amnesty International, ont déployé ce matin une banderole près de la Tour Eiffel à Paris pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et l'arrêt des livraisons d'armes. Pour l'instant, le cessez-le-feu est toujours en cours de négociation. Emmanuel Macron, qui soutient l'idée d'envoi de troupes en Ukraine en dernier recours, eh bien ses propos sont jugés très dangereux. La réaction aujourd'hui du Kremlin à Moscou. En France, les agents de la répression des fraudes ont effectué plus de 95 000 contrôles l'an dernier, soit plus de 260 visites par jour, des visites d'établissements, mais aussi de sites internet. On en parle tout à l'heure dans la deuxième partie du 13-14. Jérôme Cadet recevra Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Vos questions et ou témoignages, par exemple, de contrôle, eh bien 01 45 24 7000 pour le standard ou l'onglet réagir de l'appli France Inter. Après son intervention dans le 13-14 tout à l'heure, Olivia Grégoire rejoindra le Conseil des ministres cet après-midi à l'Élysée, où un projet de loi va être présenté, celui sur le logement. Le ministre qui porte le texte, Guillaume Kasbarian, veut simplifier les procédures pour relancer la construction de logements neufs. Il veut aussi assouplir les quotas de logements sociaux et redonner du pouvoir aux maires dans l'attribution des HLM. Ce qui est dénoncé également dans ce texte, c'est selon le gouvernement le trop grand nombre de personnes qui, par exemple, n'ont pas leur place dans les HLM. En gros, ceux qui gagnent trop par rapport à leur loyer. L'idée, c'est de les faire sortir de ce parc. Proposition jugée démagogique par Emmanuelle Cosse, l'ancienne ministre du Logement et actuelle présidente de l'Union sociale pour l'habitat, l'association qui représente le secteur HLM, est avec nos confrères de France Info.
On a des propositions qui focalisent sur un sujet très démagogique, ces gens qui seraient trop riches pour rester en HLM. Il y a beaucoup de fantasmes. D'ailleurs, dans l'étude d'impact qui est accolée à cette loi, il s'agit en fait de changer la donne pour quelques milliers de locataires sur les 11 millions de locataires. Donc moi, je ne vais pas perdre du temps à discuter de quelques milliers de locataires quand la réalité, c'est qu'on a 2 millions de ménages en effet qui attendent un logement social, que plus de 60% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va répondre à ces personnes-là. Enfin, excusez-moi, j'ai 2 millions de ménages qui attendent un logement et on va peut-être en libérer 5 000. Donc, il y a le feu et on me propose une goutte d'eau. Donc, ce qui se passe, c'est très grave.
C'est un média d'État qui le dit aujourd'hui. La Chine a bien lancé sa sonde lunaire aujourd'hui. Change 6 a pour mission de collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune, celle qui tourne donc le dos à la Terre, ce qui serait une première mondiale. La mission durera 53 jours pour Washington. Ce projet chinois civil cache en réalité un programme spatial militaire. Autre engin lancé aujourd'hui, la fusée de la start-up allemande Impulse, lancée d'Australie avec avec pour carburant de la paraffine, autrement dit de la cire de bougie. Il s'agit de tester une technologie avant un premier vol orbital en 2025. Et puis cette dernière minute avec ce communiqué de Matignon et l'évacuation de Sciences Po Paris, la fermeté est et restera totale. On y reviendra bien sûr dans le journal de 13h tout à l'heure. Pour l'instant, 12h05.
Le racisme, d'où ça vient et depuis quand?
Pour fonder le racisme, il faudrait deux affirmations. Un, les races humaines, ça existe. Deux, on peut les hiérarchiser. La science les détruit l'une et l'autre.
France Inter, Thomas Legrand.
Explorons toutes les formes de racisme partout dans le monde. Le racisme est-il dans la nature humaine? Non, nous disent les historiens.
En quête de politique, tous les samedis sur Inter, à 18h.
Les 4 épisodes sur le racisme sont déjà disponibles en podcast sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
La bande originale, deuxième partie, c'est avec Nagui et tous ses amis. Et c'est parti.
Merci Laetitia Gaillet, retour de l'information avec la rédac à 13h et avec vous toute l'après-midi. À tout à l'heure, Madame Gaillet. On dit Madame Gaillet.
Mademoiselle.
Mademoiselle Gaillet. C'est la bande originale avec Leïla Gadou Boudadi, avec Lisa Desmoitiers, Tristan Lopin, Tanguy Bassureau, avec Alexis Le Rossignol, Daniel Morin et notre invité Grégoire Delacour. La liste 2, mes envies. Jocelyne avait gagné 18 millions, son mari est parti avec 3 millions.
Et... il est parti avec tout, il en avait pensé 3 et il a rendu le reste.
Ouais,
et il y en a qui disent, ça fait plaisir, merci.
Et il est vraiment...
Non,
il y en a qui résument.
Et il est vraiment parti, c'est ça aussi.
Il est parti, il reviendra.
Il est parti.
Il reviendra.
C'est ça que je voulais dire. Que va-t-elle faire de cet argent? Elle a envie de le donner. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez... voulu balayer toutes les possibilités que l'on a dans la vie de donner, c'est-à-dire payer le caddie de quelqu'un à la sortie d'un supermarché, acheter des grilles de l'auto, les distribuer sur la place publique et se faire arrêter pour trouble à l'ordre public parce qu'on n'a pas le droit de le faire, de même risquer la prison. Enfin, tout ça ne donne pas envie d'être généreux, j'ai l'impression.
Voilà. Non, c'est mon catalogue à moi, ma liste à moi de ce que je tenterais de faire. J'avais un rêve, mais c'est impossible, c'est de donner par exemple 1000 balles à quelqu'un dans la rue et de le suivre. De voir ce qu'il en ferait, mais on peut pas, parce que ça veut dire comment
on
filme.
Bah, c'est du harcèlement, oui.
Je sais bien, mais j'adorerais prendre par exemple 4 personnes comme ça et voir ce qu'ils en feraient. Est-ce que l'un, il va tout de suite aller acheter un gâteau ou se marier, comme disait la dame tout à l'heure, ou est-ce qu'il va aller à la banque les poser? Je sais pas.
Est-ce qu'il leur redonne?
Oui, fascinant de se dire qu'est-ce qu'on ferait si tout d'un coup on a de l'argent qui sert à rien, enfin qui tombe comme ça, qu'on n'attendait pas. Et après,
oui,
moi-même...
Oui, sauf que la gestion, pardon Grégoire, la gestion de 1000 euros, de 5 000 ou de 10 000, c'est ce qu'a dit la dame tout à l'heure, c'est à partir de 500 000 qu'on
considère ça. Oui, il est très riche, mais même, vous savez, donner 1000 euros à quelqu'un dans la rue, vous avez
Non, mais je suis d'accord. Ouais. Non, mais d'ailleurs, c'est l'une des scènes dans le roman. Mais c'est vrai que le trouble arrive quand on parle en millions, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte
non, c'est trop
de ce
énorme.
Que ça représente.
Ouais, ouais. C'est trop énorme. Et d'ailleurs, un des personnages de mes gagnants anonymes dit c'est des chiffres, j'avais jamais dit une somme, le chiffre.
C'est ça.
J'avais gagné 20 millions ou 1 million. J'ai jamais dit ce chiffre parce que c'est pas à moi, ça concerne pas. Et de ce jour, elle a eu peur de perdre.
Et de faire... Oui, Alexis.
Non, ce qui est hallucinant, c'est quand on voit l'évolution du coût, en fait, de l'argent. Parce que quand on regardait le millionnaire à l'époque de Philippe Risoli et qui gagnait 500 000 francs, c'était fabuleux. Il s'achetait une maison, une voiture, etc. Et aujourd'hui, tu ferais pas grand-chose avec 75 000 euros, quoi.
Oh, l'anecdote de Boomer.
Non, mais attends, pardon. Sauf qu'aujourd'hui, si le millionnaire, je sais même pas si ça existe encore, mais ça serait 500 000 euros. Et que même si tu dis c'était 6 fois plus ou 6 fois moins, peu importe comment on se place entre le change, entre le franc et l'euro, tout a augmenté, oui, mais les gains aussi ont augmenté, j'imagine, non?
Ouais,
les gains ont augmenté, mais en peu de temps, la valeur de l'argent a quand même a perdu, quoi, je pense.
Ah, c'était mieux avant, tu vois.
Oui, voilà.
Ouais. Bah,
du temps du millionnaire de Philippe Risoli.
Non, c'est-à-dire que il va nous dire que.
Mais non,
tu te rends compte que maintenant, quand tu commandes une pizza, elle coûte 100 francs. C'est ça? Elle est à 15 euros.
Il faut avoir les moyens pour être italien. Hein.
Jamais t'aurais payé 100 francs une pizza.
On parle sur France Inter maintenant.
Ce qui est effrayant, c'est le constat qui est effrayant.
Je ne prendrai plus jamais la parole.
Ne valent plus rien. L'exemple de la mercerie, où on n'achète plus rien parce que c'est disponible à un dixième du prix
sur le site. Ça, ça c'est vraiment terrifiant.
Ça, c'est vrai.
Daniel a des bons plans mercerie.
Elle raconte, elle aime bien. Non, mais elle aime sa mercerie. Les gens aiment parce que c'est un métier à la main. Elle relie. Il y a un lien social. Elle tisse des choses. On aime faire soi-même des choses. C'est comme la cuisine, je veux dire. Et tout d'un coup, son employé Mado, qui est un personnage que j'aime beaucoup dans le livre, dit mais on a personne depuis 3 jours. Mais que vous imaginez pour faire
une robe. Alors que dans le premier roman, il y avait le succès de la mercerie.
Oui, et là maintenant, elle dit sur Internet, on trouve une robe. Et là, j'ai été vérifié. Frais d'envoi inclus à 4,99 pour une robe d'enfant. Donc, qu'est-ce que vous voulez lutter,
et ça
tue tout le rapport aux choses, à soi, à l'autre. Et même si on sait que c'est des enfants au bout du monde qui font cette robe, on s'en fout.
Qui sont payés 15 centimes.
Elle est aussi relative.
Petite main, fragile. Ça rassure.
Oui, mais ils se trompent de taille, ils ne se rendent pas compte. La vraie taille.
C'est dur sur 7.
Grégoire Delacour, dans le roman, il y a aussi, sur les histoires d'amour, la différence d'âge qui est évoquée, le polyamour également. Comme si vous vouliez rester connecté à l'évolution de notre société aujourd'hui aussi un tout petit peu.
Pour rester, je n'ai jamais vraiment été déconnecté.
J'entends, mais vous la suivez.
Non, mais j'aime bien tenir compte de ce qui se passe, et surtout c'est dans le cas du polyamour, on va appeler ça un trouple, puisque c'est le mot qui convient. Bah, ça me fait rire, c'est tout, je trouve ça drôle, et voilà, et c'était
Ce qui est plus gênant, c'est que ce soit avec des jumelles.
Sœurs, ouais.
Ouais, mais c'est assez amusant.
Gênant.
Oui, voilà. Non, ce qui est gênant pour le monsieur, c'est que je n'ai pas le même prénom.
Non, c'est gênant, mais t'es malade ou quoi?
Ah bon?
Bah oui, parce que
c'est peut-être moi qui ai un problème.
Elle s'embrasse, elle se touche, enfin, c'est des sœurs.
Non, bah oui, on peut être
proche de
la famille.
Si, c'est dit.
Non, mais je sais bien, mais je vais pas aller dans le détail. J'ai dit, il y a des choses quand même, forcément.
Si, c'est dit.
Elle veut faire plaisir au gaillard.
Mais n'oublie pas que monsieur à Valenciennes.
Moi, je suis de Valenciennes. C'est cool.
Oui, mais
là-bas.
Regarde, Lisa est née en Belgique, ça la choque.
Ouais, mais elle dit rien.
Même,
ouais,
même la Belgique, ça la choque.
Non. Là, c'est de l'inceste.
Personne ne te croit, Lisa.
Non. La différence d'âge, oui, c'est joli, c'est un truc chouette.
Et la différence d'âge aussi est évoquée, y compris aussi le retour dans au bercail des enfants. L'une est partie et veut faire du cinéma, elle est en Angleterre.
Ouais, depuis le début, depuis le premier livre, oui.
Et Romain, oui, mais sauf que là, elle revient. Elle renvoie en tout cas son manuscrit, elle veut faire un film, elle a même l'idée. Voilà. Et là, vous faites...
s'appelle, j'ai appris ça.
Ah, moi,
on m'a dit c'est un métatexte. C'est-à-dire qu'il y a un texte dans le texte.
Une mise en abîme.
C'est un métatexte.
D'accord, un métatexte.
Voilà, j'ai appris ça la semaine dernière, donc je vous... donne gratuitement.
Monsieur,
je fais à métatexte.
Monsieur est documenté. Ouais. Ouais, voilà. Non, puisqu'on est sur les mots, vous aimez aussi aller chercher des mots qui décrivent un bleu très particulier, un bleu azuréen.
Céruléen.
Vous allez chercher des
J'aime
mots.
J'aime bien mettre des mots de temps en temps jolis comme ça, parce que je trouve que c'est important.
Ça
que un livre ramène des mots, c'est comme un collier de perles. Tout d'un coup, il y en a une un peu différente. Et même si on connaît pas, il y a quelque chose de joli à
on regarde
ou pas.
On regarde en dictionnaire.
Ouais, et j'aime bien ça, je trouve ces petits cadeaux qu'on fait comme ça.
Chez Albin Michel, la liste de mes envies, un cadeau que vous pourriez faire, le nouveau livre de Grégoire Delacour. Voici Tanguy, passe sur moi.
C'est formidable un métier, c'est quelque chose que j'adorerais connaître. Je viendrais à la radio, vous me diriez bonjour, vous lèveriez tous les yeux de votre téléphone au lieu de visionner des sites X, au bureau. En plus, la catégorie animaux s'est limitée une fois que vous avez vu un teckel. Vous les avez tous vus. Ces bestioles-là sont pas si inventives. Tiens, une statistique, il n'y a pas une start-up dans la Silicon Valley qui a été montée par un teckel. Par contre, faire caca sur la pelouse, ah, ça... elles savent faire ces sales bêtes, c'est pas étonnant que la croissance stagne. À part les chiens de traîneau qui tirent des Inuits, ça bosse moyen du côté des canins. Bon, l'amitié, c'est ce sentiment qui réchauffe le cœur et surtout permet de faire des économies. Un déménagement, hop! Coup de fil à des amis, et ils arrivent. Et à qui veut gagner des millions, il y avait aussi le coup de fil à un ami. Mais ceux qui n'avaient pas d'amis, comment ils faisaient? Ils appelaient des inconnus? Alors nous avons en ligne Myriam de la CAF de Bordeaux. Myriam, question mythologie. Et l'autre répondait, ah bah non, là on ferme, rappelez mardi Jean-Pierre, parce que lundi est férié. Et tout à l'heure à la radio, je dis bonjour à un ami, Daniel Morin, bon, qui me répond ta gueule. Et je lui dis, Daniel, retire ta main de mes fesses. Il répond, bon allez, entre amis quoi. Je lui dis, Daniel, as-tu lu le Huffington Post? Il répond, non, moi je lis uniquement Causeur d'Elisabeth Lévy, Valeurs actuelles et le magazine de Papacito.
Voilà.
Et là, il se met à hurler, on en a dans le calcif ou on n'en a pas dans le calcif.
Voilà.
Oui, monsieur.
Alors, immédiatement, je le tase avec un chargeur d'iPhone défectueux. Il convulse sa terre. Françoise, la technicienne de surface de notre étage à la radio, le ramasse et le met dans un sac poubelle en disant, vous pouvez pas ramasser vos chroniqueurs après usage, tas de bourgeois. Parce que vous connaissez l'aigreur dont peuvent se montrer capables les gens précaires. Là, je prends mon smartphone, j'efface par réflexe les émojiqueurs que vous m'envoyez, Nagui, 50 par jour. On peut parler de harcèlement
c'est
numérique.
Vrai,
hein.
C'est vrai.
Et je rouvre cet article Huffington. intitulé « Il me touchait les seins en riant quand les blagues d'amis virent à l'agression sexuelle ». Toucher des seins en riant, c'est une vieille spécialité française, le fameux « poète-poète camion » ou sa version parisienne « poète-poète vélib hein, ». C'est la même chose, sauf qu'on pince des tétons en grillant des feux rouges. Quoi. Je pense qu'il n'y a qu'en France en fait, qu'on touche des seins en riant. Franchement, dans les autres pays, c'est vu comme une activité soit sensuelle, soit de dépistage, soit les deux si tu sors avec un radiologue qui n'arrive pas à décrocher du boulot. C'est notre héritage grivois. On aime le blanc, le rouge, les seins, les fesses. Même moi, hein, dans un magasin Nicolas, il y a toujours un moment où je crie tous à poil. En général, ça marche pas. Hein, à part chez Nicolas au Cap d'Agde, où là, mais ça a pris direct. Hein, Jocelyne et René, ce petit couple d'amateurs, oui. S'est emparé d'un magnum de champagne. Il a fallu qu'on leur dise on n'a rien contre l'ambition. Mais une petite bouteille de bière, c'est plus doux, une fois décapsulée. Enfin, blague de caviste. Hein, voilà, à part Alexis qui a un petit réseau dans le milieu parce qu'il se fait offrir du pinard à chaque spectacle. Bon, je suis pas sûr que vous y ayez vraiment compris. Donc, dans l'article du Huffington, on parle de l'amitié qui dérape. Parce qu'en théorie, l'amitié s'arrête au moment où tu as les mains sur la poitrine de la personne. Sauf en cas de carnaval, si t'es déguisé en soutien-gorge, mais enfin, c'est rare. Gwen, jeune dame de Paris, témoigne dans l'article, elle dit « J'ai un bon ami qui, à chaque soirée, me touchait les seins en rigolant. » Alors moi, ma réponse est « Change d'ami. On est 8 milliards sur Terre. Même s'il y a 7 900 000 cons, c'est à peu près ça la proportion. Hein. Bon, bah, il reste quand même du choix. Tout le monde en soirée, vous tripote pas les seins. Parce qu'en fait, ces actes, ce sont des agressions sexuelles, mais commises sous le prétexte de l'humour. Ouais. Donc, ça passe. C'est-à-dire que si tu frottes quelqu'un dans le métro, mais en récitant un sketch de Foresti, eh ben, c'est OK. L'humour permet les pires saloperies. Je suis pour l'interdiction de l'humour. Enfin, ça libérera énormément de temps d'antenne sur France Inter pour la musique. Quand humoriste viré, c'est 1000 euros par jour de droits d'auteur qui tombent pour Bertrand Belin. Hein, dans l'article, Sophie, 25 ans, raconte, elle, avoir subi des attouchements en soirée after work. Ce sont ces soirées qui débutent à 19h. Donc, 19h30, tu es ivre. Un mois longtemps, j'ai appelé ça vie quotidienne dans le Nord Finistère, mais enfin bon. Sophie raconte qu'une collègue, un soir, a mis son nez dans son décolleté en bougeant la tête. Bon, après, elle avait peut-être envie de se moucher et n'avait pas de Kleenex. Je veux dire, il ne faut pas voir le mal partout. Mais ça s'est fait sans le consentement de Sophie. Juste parce qu'on était en soirée et donc les seins, c'est rigolo. Hein, moi, je découvre. Moi, j'ai toujours trouvé ça plutôt joli, mais j'ai l'impression que pour les trois quarts des gens, entre un spectacle de Gad Elmaleh et des seins, ils iront vers les seins. Et c'est vrai qu'on met rarement son nez dans Gad Elmaleh. Hein, parce que c'est une star, bah, elle est peu accessible. Hein. D'ailleurs, dans le langage familier, les seins ont des noms rigolos. Néné, Lolo, Roploplo. Il n'y a pas la même chose pour les genoux. Et personne ne tripote le pouce en disant hey, « Eh, d'ivoire Lamartine, t'as de beau poupou hein, !» Ça n'existe pas. Donc, dans l'article... Ce sont des pouces, hein, tout va bien.
Oui, okay. Ouais,
ouais. Pardon, poupou. Alors, dans l'article, Thomas, qui travaille dans le milieu médical, parle, lui, de l'humour grivois systémique qu'il y a dans son métier à l'hôpital. Il explique qu'il se fait même tripoter les fesses, donc parfois en pleine opération, peut-être, donc il sursaute avec le scalpel, les zoos. Hein, il ouvre Madame Sanchez en deux dans le sens de la longueur, alors qu'il était venu pour un appendicite. Hein, direction Charal, la malheureuse finit à la cantine scolaire dans l'assiette des gosses. Et alors, Thomas dit que quand il se rebiffe, on l'accuse de casser l'ambiance et on lui sort cette phrase. Prélude à tant d'agressions sexuelles, ne fais pas ta mijaurée. Donc la règle, c'est ton corps t'appartient, évidemment, et tes seins ne sont pas un divertissement. Sinon, à Disneyland, dans le monde de Peter Pan, on pincerait ceux de la fée Clochette. Et je précise que Daniel, bien sûr, ne me touche pas. C'est un homme moderne et respectueux dans un monde de beauf. Pour un peu, je ressentirais presque de l'amitié pour lui.
Merci,
oui, je suis fier.
Attention.
C'est vrai que ça marche que dans un sens. Hein. En l'occurrence, ce sont les femmes qui subissent ces blagues grivoises, évidemment.
Sur scène aussi.
Tanguy Pastureau.
Il ne vous touchera pas sur scène.
Mais s'il vous touchera émotionnellement.
Ah, émotionnellement, ouais. Évidemment. Ce sera le 9 mars, si vous êtes du côté de Nantes, à la Cité des Congrès, le 9 mars 2025, évidemment.
Grégoire Delacour, la liste de mes envies chez Albin Michel. Lisa, tu ferais quoi, toi, si tu gagnais 18 millions ?
Je crois que j'achèterais un appart.
Premier truc, c'est rembourser un crédit ou acheter un appartement.
Acheter
c'est
ça un appart.
D'accord, ouais, la maison, quoi.
Et puis après, je ferais quand même un truc absurde, quoi.
Le vendre.
Ouais. Le vendre à perte, ouais. Ouais.
C'est le truc inutile, tu veux
ouais,
dire.
J'aurais ouais, j'aurais juste besoin de remettre l'argent à sa place, quoi. Donc faire acheter un truc inutile.
Ok.
Ouais, voilà.
Tristan, c'est intéressant, ouais. Tristan.
Ouais, moi, je pense que je m'achèterais un appart, ouais. Et une maison peut-être au bord de la mer pour pouvoir passer le week-end. Les...
Ouais. Est-ce que le réflexe de Lisa et de Tristan, c'est d'abord le toit et quelque chose que vous avez pu constater aussi. Il est question aussi de se dire où allons-nous vivre, dans quel genre de maison, de hameau qu'on évoquait tout à l'heure.
Ah ben moi je trouve que c'est très très important. J'ai très tôt aussi eu envie d'avoir une maison, enfin un appartement, un toit, quelque chose où je puisse être. à l'abri de tout et puis recevoir les gens fragiles autour de moi. Et ça, c'est très, très important d'être ancré quelque part.
Alexis Rossignol, ouais. Tu gagnes...
Je crois que je serais très embarrassé, mais sans doute une maison au bord de la mer.
Et... Embarrassé pourquoi ? Parce que ça ne fait pas partie des valeurs.
En fait, je n'ai pas de goût comme ça. Je ne serais pas une voiture très chère, par exemple. Mais non, peut-être que je rachèterais 18 millions de banco pour gratter pendant toute ma vie. Et
mais
faire,
pourquoi faire Et si tu gagnes plus, tu fais quoi ?
Je sais pas, écoute, je sais pas, je me projette pas, je suis pas joueur.
Moi, non. Je serais pas embarrassé, par contre, je crois.
Si, je serais embarrassé un peu, c'est trop gros.
Ouais. Oui, mais ça peut. Je crois que j'aurais de l'imagination.
Non, par contre, c'est trop gros, il a raison, mais tu n'aurais pas le droit de les donner. Il n'aurait pas
si, en l'occurrence. Il peut les donner, mais voilà, il donnera pas beaucoup sur ce qu'il voudrait donner, mais on peut donner, bien sûr, on peut toujours donner. Et je rappelle qu'on n'a pas besoin de gagner pour donner.
C'est vrai.
Après, il faut quand même de l'argent.
Mais vous savez, donner, c'est pas donner. Beaucoup, c'est donner. Et si on donne 5 euros, c'est donner. C'est
j'ai
pas.
Presque envie de dire, c'est de donner régulièrement aussi. Exactement. Et c'est ce qu'attendent aussi les associations, l'UNICEF, c'est que ce soit régulier, ne serait-ce que 5-10 euros.
Regardez les Emmaüs, tout ça aujourd'hui, à qui on donnait par exemple des vêtements en bon état, qu'on voulait les plus. Aujourd'hui, ça va sur les sites vintage. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils sont dépossédés de quelque chose d'important, qui est des vêtements pour donner aux gens une nécessité
d'hiver.
Mais
vous avez
le droit. Il faut continuer à donner, je veux dire, c'est hyper important.
Vous avez le droit de mettre en vente des vêtements et de dire au site, donner l'argent.
Ouais, vous faites des choses, ils font pas.
Ouais, non, mais franchement, vous avez le droit. Tanguy Passureau, tu ferais quoi, toi, de 18 millions ?
Bah, j'en donnerai un petit peu à Daniel Morin, déjà, pour qu'il arrête cette carrière. Parce qu'il est temps, à un moment, qu'il se repose. C'est un vieux.
J'arrête.
Et ensuite, j'en donnerai pas mal à ma famille, je pense, quand même, pour mettre tout le monde à l'abri. Et après, je sais pas.
Ça aussi, c'est l'un des réflexes de Justine, je trouve aussi, c'est de penser à la famille.
Bah, protéger ce qu'on aime, voilà, leur permettre d'avoir une jolie vie et d'être débarrassé un petit peu des contraintes. Le pire, c'est de faire, par exemple, un métier qu'on n'aime pas.
Il y a cette citation anonyme et qui est absolument formidable. Ouais, ça m'étonne qu'elle soit anonyme, d'ailleurs, je me demande...
Ouais, c'est beau, j'ai pas trouvé.
Vous pouvez nous la lire, ça vous dérange pas, parce qu'elle est extrêmement... Et elle répond à tout ce qui a été dit autour de cette table depuis le début de l'émission.
L'argent permet d'acheter bien des choses. Une maison, mais pas un foyer. Un lit, mais pas le sommeil. Une montre, mais pas le temps. Un livre, mais pas le savoir. Un spectacle, mais pas la joie. Un emploi, mais pas le respect. Des relations, mais non l'amitié. Un médicament, mais pas la santé. Du sang, mais pas la vie. Le plaisir, mais pas l'amour. Des diplômes, mais pas la culture. Des tranquillisants, mais pas la paix intérieure. Beaucoup de choses, mais pas le bonheur.
J'adore cette phrase.
C'est beau, hein,
j'adore. Ouais. Ah oui, mais ça, je pense qu'il faudrait le mettre en exergue dans toutes les écoles en disant voilà, c'est pas une fin en soi. Ouais.
Pas dans les banques.
Que... Ni à la Française des Jeux.
Si, on devrait même.
Une banque solidaire.
Même une banque normale. Non,
La liste 2, mes envies. La liste 2, mes envies chez Albin Michel, signé Grégoire Delacour. Voici Alexis Laurence.
Bonjour.
Hier la semaine avec les nouvelles du monde.
Oui.
D'Alexis.
On part aux États-Unis aujourd'hui.
Ouais.
Okay. United States. Où cette année les gens vont devoir choisir entre un candidat que tout le monde trouve vieux et un autre qui a juste 4 ans de moins. C'est le débat qui nage de toutes les élections présidentielles.
C'est vrai,
on l'oublie complètement.
Ils ont que 4 ans d'écart.
4 ans d'écart. Alors le fait du fait de son âge, bon, ben Biden a tendance à dire des choses incohérentes en public, ce qui peut être préjudiciable pour les États-Unis, comme si Trump avait des prises de position rassurantes, quoi. Vu de près, Trump et Biden, on dirait un peu des patrons grimés de l'émission Patron Incognito sur M6 et qui forcent un peu le trait pour voir et mettre à l'épreuve leurs salariés. Biden, il joue le client fragile qui a besoin d'assistance et Trump, c'est le client qui dit n'importe quoi et qui a choisi la perruque la moins discrète de toutes celles proposées par la costumière. Elle est en coulisses, elle se dit merde, ça va pas le faire. L'orange, c'est vraiment trop grillé, quoi. Et finalement, ça marche. Et souvent, le patron incognito dans cette émission, d'ailleurs, il fait du zèle. Tu sens qu'il vient un truc incroyable et rêvé par tous les patrons, c'est savoir enfin ce que tes employés disent de toi. Alors, il leur dit « Il n'est pas là, votre patron ?» En espérant qu'il lui réponde « Non, ce gros con n'est pas là ce matin. » Mais non, au lieu de ça, il lui répond « Ben non, il n'est pas là. » On est presque inquiet, parce que c'est vrai que d'habitude, il vient tout le temps. Et lui, sous sa perruque et sa fausse moustache, on sent qu'il est touché par tant de respect. Alors qu'il était vraiment persuadé d'être un gros con, quoi. En fait, les gens se respectent plus qu'on l'imagine. C'est ça la grande leçon de patron incognito. C'est pour ça d'ailleurs que François Hollande a l'air si heureux depuis qu'il est plus président. Il se balade partout, il serre des mains dans les villages. Les gens lui disent « Bonjour, monsieur. » Il leur répond « Je suis l'ancien président. » Ils lui disent « Ben non, désolé, on se souvient pas. Mais bonne journée quand même, monsieur. » Et il continue joyeusement. Le seul problème finalement de cette émission, c'est qu'après on voit des patrons incognito partout. Moi, dès que je vois un homme un peu louche autour de moi, je me dis, ce serait pas Nagui qui fait son patron incognito là ? Donc je m'approche discrètement, je l'écoute, puis bon, s'il pose des questions courtes, je me dis, oh non, c'est pas lui. Alors pourquoi je vous parle des États-Unis ? Parce que j'ai lu cette semaine que le patron d'une grande chaîne de magasins de literie a trouvé une technique incroyable pour gagner systématiquement au pari sportif. Vous allez voir, c'est hachement malin. Il s'appelle Jim McInerney, il a 73 ans et il parie des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars sur un résultat avec une grosse cote, donc une grosse probabilité de gain. Et le jour de son pari, il dit à ses clients « Venez dans mes magasins, achetez des articles pour un minimum de 3 000 $. Si je gagne mon pari, je vous rembourse tous vos achats. Si je perds, vous les payez comme si vous faisiez vos achats normalement. » Et ça marche, il est toujours gagnant du coup. Voilà. Parce que les gens vont en masse dans ces magasins.
Bah ouais.
Quand ils gagnent de quoi les rembourser. Et puis il lui reste encore beaucoup d'argent. Et s'il perd, bah, les gens paient leurs articles normalement. Quoi. Ce qui fait qu'il gagne dans les deux cas. Et en plus, il fait un coup de com'. C'est magnifique, non? Ouais. Ça met de l'ambiance dans les magasins de literie. Parce que c'est vrai que les magasins de literie, ça manque de fun.
Oui, c'est pas, ouais.
35% des gens qui restent plus de 60 minutes dans un magasin de literie finissent par s'y endormir. Ça veut dire ça ? Franchement, si c'était pas moi qui l'avais inventé, j'y croirais aussi. Quoi. On pourrait ajouter un peu de piment dans les magasins de literie. C'est vrai, à commencer par une cabine d'essayage de lit déjà. Vous avez déjà vu un couple essayer un matelas ? Non, mais c'est très gênant. Ils montent sur le lit, ils s'allongent sur le dos et ils attendent. Les bras croisés sur le torse, comme ça on dirait des momies égyptiennes, avec le vendeur qui les regarde en leur disant « Vous vous sentez bien ?» Ils sont là « Ben oui, enfin on a l'air à l'horizontale en tout cas. » Alors il y a aussi des fabricants qui proposent 100 nuits d'essai gratuites. Ouais. Ça c'est malin aussi, parce que quel genre de personne, au bout de 100 nuits, va dire « Ouais, finalement, non. On n'est pas si bien dedans, hein. On va le renvoyer. Hein. » 100 nuits dans un lit, c'est pas un essai, c'est un stage. En tout cas, les affaires marchent bien pour le parieur fou. Sa fortune est estimée à 300 millions de dollars. Ah, pas mal quand même. Alors moi, je vais faire la chose suivante. Chers auditeurs, achetez des places pour mon spectacle. Pour un minimum de 300 €. Vous en prenez pour la famille, ça fait un super cadeau groupé. Et moi, je vais pas parier, parce que les paris, c'est mal. Mais sachez que je vous respecterai, plus que vous ne l'imaginez.
Merci, Alexis de Rossignol. Finalement, dans ce que dit Alexis Le Rossignol, celui ou celle qui gagne, c'est celui qui organise le. Celui qui gagne.
Bah,
le
la
plus.
Banque.
Bah ouais, c'est la banque. C'est,
on
la,
a vu le
c'est la Française des Jeux.
On a vu le pourcentage
bah, oui.
qui est mis de côté, c'est terrifiant quand même.
Vous avez entendu, vous vous souvenez de cette histoire de l'Américain, justement, qui avait dit si vous voulez être millionnaire, envoyez-moi 10 dollars avec une lettre à votre adresse ouais. et je vous dirai comment faire. Et donc, il avait reçu ouais. des millions et il avait renvoyé, donc, dans le. Simplement un papier dans la lettre déjà estampillée en disant faites comme moi.
Voilà, ouais, c'est superbe.
C'était fou. Ça vous fait plaisir, vous aimez ce genre
de. Ah, mais j'aime ça. D'histoire. C'est comme un jour un type va voir une agence de pub pour vendre plus de dentifrice. Il dit voilà, j'ai un gros budget pour refaire une grosse campagne. Et le type lui dit non, vous agrandissez un tout petit peu le trou. Du tube. C'était génial.
Et... Est-ce que la liste 2, Mes envies, va devenir le film 2 ?
Alors, ça deviendra quelque chose. J'aimerais bien une série, en fait. Enfin, je dis ça.
D'accord.
Si ça intéresse quelqu'un. Mais oui, il y a des projets, mais je pense qu'il y a matière à faire une série. J'aime bien ce temps qu'on donne quand il y a des beaux personnages sur 6 heures plutôt qu'une heure 30. On est obligé de contracter, de résumer, de caricaturer.
Et je pense qu'il y a matière à faire. Un 6 fois 52.
Oui.
Il y a beaucoup d'histoires à raconter, c'est vrai.
Il y a joli. Je pense que ça serait pas mal. Ouais.
Chez Albin Michel, Grégoire de la Cour, la liste de mes envies des excuses. Ah, je vais y arriver. Des excuses à présenter.
Bah, je suis désolé pour vous. Dis donc, qu'est-ce que c'est pas
bah, c'est l'âge.
Ah, je sais ce que c'est. Désolé pour nos auditeurs qui, comme Alexis Le Rossignol, aiment le flouze, le fric. L'artiche s'en mettent plein les fouilles et qui ont été, on peut le dire, écœurés par le côté gaucho, nécessitant, intermittent de certains propos et que je veux redistribuer et que l'argent rend fou et gna gna gna, vive la dèche. Après, moi je sais pas de quoi on parle, hein. Je suis payé par France Inter. Désolé pour tous nos auditeurs aux pieds crado, pleins de mycoses, qui m'ont appelé pour que je les mette en contact avec Lisa Abdelmoitier, alias le durillon de Molenbeek. Alors, elle l'a dit, hein, elle est sélective en matière de pieds et ce qu'elle préfère, c'est le pied de cochon de la cantoche de Radio France. D'ailleurs, au programme tout à l'heure. Désolé enfin pour Tristan Lopin, le biographe non officiel de Nagui, qui m'a confié à la pause toutes les saloperies qu'il avait sous le coude pour la prochaine fiche Wikipédia. Ah la vache, je peux rien vous dire, hein, mais la différence de taille de pied, c'est rien à côté d'autres particularités comme son énorme et disproportionné ego, bien entendu.
Bien évidemment, évidemment.
Ça y est, j'en pouvais plus de cette semaine.
Je suis taqué. Merci Grégoire Delacour.
Ouais, bravo.
Merci beaucoup et bravo pour la liste de mes envies de chez Albin Michel. Lundi, Marine Delterme sera notre invitée. Bonne journée sur Inter. Dorothée Barba, comment allez-vous finir cette semaine, s'il vous plaît?
Je donne la parole dans les carnets de campagne à un musicien qui enregistre la nature et qui mélange les sons avec ses compositions pour proposer ensuite des balades sonores au public. On se promène en écoutant chanter les paysages. A tout de suite.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Midi et demi sur Inter. Voici les titres du 13-14. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. À 13h, nous parlons de deux projets de loi. Ils sont très attendus. L'un est dévoilé aujourd'hui, l'autre lundi, mais on en a déjà les grandes lignes. D'abord le plan Ecophyto. Vous savez, il a été mis en pause au moment de la crise agricole. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, en donne les grandes lignes aujourd'hui. C'est pour diminuer l'utilisation des pesticides par nos agriculteurs. Et puis le plan logement de Guillaume Kasbarian. Et là, on va remanier les règles d'attribution des logements sociaux et de calcul aussi par commune. On va vous expliquer tout cela. On va vous raconter l'histoire de cette femme de ménage. Ça se passe Gare Montparnasse il y a quelques mois. Elle a été renvoyée sans aucune indemnité pour avoir accepté un pourboire de 1 euro. Et donc l'entreprise néerlandaise en cause se défend et on aura les deux parties tout à l'heure dans le journal de 13h. À partir de 13h30, la ministre déléguée chargée de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la fraude, Olivia Grégoire, est avec nous puisque la DGCCRF présentait son bilan 2023. On parle de l'inflation, on parle également de l'action avant les Jeux Olympiques avec vous également 01 45 24 7000 sur toutes les arnaques et fraudes. Et puis l'histoire du chanteur Hervé qui vient présenter ses dernières chansons. Elles sortent aujourd'hui dans un thé dansant en Bretagne.
À Quimperlé, j'ai vu ça.
Tout près de Lorient, je crois que c'est l'Anester.
Bon, enfin, géographie bretonne m'échappe.
Enfin, on l'écoutera en tout cas.
On écoutera Hervé dans le 13-14, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Jérôme Cadet, à tout à l'heure.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut savoir quitter l'Alsace. Dernier jour dans le Haut-Rhin pour les carnets de campagne. Les épisodes précédents, bien sûr, sont disponibles en podcast. Aujourd'hui, je voudrais mettre la lumière sur deux initiatives magnifiques dans deux styles très différents. D'abord, un restaurant à Mulhouse baptisé Un petit truc en plus. Cela fait écho au film qui est en salle en ce moment et qui porte le même titre. Ensuite, des balades sonores dans la nature. Un musicien qui enregistre les bruits des lacs, des rivières, du vent, des arbres, et il y superpose des mélodies qu'il compose. Il propose ensuite au public de se promener dans les mêmes paysages, avec un casque sur les oreilles. Jim Petit, c'est le nom de ce compositeur singulier, il est mon invité tout à l'heure. Les balades de Jim Petit sont des parenthèses un peu magiques. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
À table, voici un restaurant à Mulhouse que l'on choisit pour son ambiance et pour ses plats, cuisine de marché à base de produits frais et locaux, mais aussi, et surtout peut-être, pour son engagement en faveur de l'emploi des personnes porteuses de handicap. Un petit truc en plus, c'est le nom de ce resto. La majorité des employés est porteuse de la trisomie 21. Bonjour Aurélie Bernard.
Bonjour.
Vous êtes la chef de ce resto qui existe depuis bientôt 5 ans. Pourquoi ce nom, Un petit truc en plus ?
Alors, pourquoi ce nom? Donc, pour deux raisons. La première raison du petit truc en plus, c'est pour le chromosome en plus que les équipiers ont. Donc, les équipiers, c'est les personnes porteuses de trisomie 21 qu'on appelle comme ça au restaurant. Mmh. Et la deuxième chose, c'est le petit truc en plus que vous pouvez retrouver dans l'assiette qui vous donne également envie de revenir.
Comment recrutez-vous votre personnel précisément?
Alors, on l'a recruté qu'une fois. On a fait une séance test en 2019 et en fait, on avait 12 candidats. On en a retenu 6, donc aujourd'hui ils sont plus que 5, mais c'est les mêmes salariés depuis le début de l'aventure.
Pourquoi est-ce qu'il est important, Aurélie, de faire travailler ces hommes et ces femmes trisomiques dans un restaurant en contact avec du public?
Parce qu'ils ont le contact facile, parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont ouverts à l'autre Et voilà, les gens aiment bien venir chez nous parce qu'ils disent que quand ils repartent, ils sont reboostés parce qu'il y a toujours le petit mot pour rire, la petite blague et le contact vraiment, vraiment très facile des équipiers.
Et accessoirement, en termes d'insertion, ça n'est pas rien. Hein. C'est colossal, les chiffres du chômage chez les personnes porteuses de handicap.
Ah, bien sûr, il n'y a qu'un pour cent des personnes trisomiques qui travaillent, qui sont dans le monde ordinaire, en tout cas dans le milieu ordinaire. Et moi, je trouve qu'ils ont totalement leur place parce qu'ils apportent beaucoup. Oui, il faut répéter, mais je pense comme à d'autres personnes. Ils sont toujours présents, ils sont toujours motivés, ils ont toujours le sourire. Ils sont vraiment, ils ont envie d'y arriver et puis et ça c'est super, quoi, vraiment.
Vous avez 7 salariés, je crois, chez Un Petit Truc en Plus, mais aussi beaucoup de bénévoles. Quel est le rôle des bénévoles ?
Alors oui, on est 7 salariés, donc 5 personnes porteuses de trisomie 21, mon collègue Mathias qui est second et moi-même. Et en fait, les bénévoles, moi, je les appelle les anges gardiens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont là pour accompagner l'équipier et pour éviter justement qu'il fasse une bêtise ou qu'il se trompe. Et donc, moi, je les appelle vraiment les anges gardiens. Et donc, ils complètent l'équipe parce qu'on est une association. Donc, on a choisi ce type de structure justement pour pouvoir accueillir des bénévoles, pour nous aider au quotidien parce que pour superviser 5 personnes trisomiques, il faut du temps, il faut de la patience. Donc en fait, il y a un bénévole presque pour un équipier.
Est-ce que ça a été facile pour les équipiers, les équipières de s'adapter à cet emploi ?
Alors, plus facile que ce qu'on imaginait. Vraiment, les 5 équipiers se sont super bien adaptés. Après, maintenant, ça va faire presque 5 ans, donc il faut revenir sur des fondamentaux. On va un peu plus répéter parce qu'il y a une lassitude, je pense, qui s'est un petit peu installée. Mais voilà, on essaie de les remotiver, de les rebooster en faisant des petites choses, des petites actions pour qu'Antoine, Salima, Élise, Tristan et Juline soient toujours souriants quand vous viendrez au restaurant.
Ils ont quel âge, si c'est pas indiscret ?
Alors, ça va de 28 ans pour Juline jusqu'à 51 ans pour Salima.
Et c'est leur premier emploi à tous et toutes ?
Alors, en fait, ils étaient en ESAT avant, dans les structures des papillons blancs. Donc, en tout cas, dans le milieu ordinaire, oui, c'est leur premier emploi.
Est-ce que vous auriez un souvenir marquant à me raconter, Aurélie ? Un moment qui raconte cet endroit et son atmosphère ?
L'inauguration, je pense. Ça, c'est le souvenir où il y avait toutes les familles, il y avait bien sûr les politiques, mais il y avait les familles, il y avait les gens qui nous ont aidés, les structures comme les papillons blancs, les personnes du centre de réadaptation, donc Monsieur Cardozo, Madame Bruant, la présidente et tout ça. Enfin, tout ce monde-là, à l'inauguration en septembre 2019, ça a été vraiment un moment très fort. Et voilà, je pense que ça, c'est très marquant parce qu'on sentait vraiment un environnement super bienveillant et tout autour de nous. Et voilà, ça c'est, je crois que c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué.
Quand on vient déjeuner chez vous, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le service soit un peu différent ou est-ce que vous diriez que c'est un resto comme un autre au final ?
Moi, je dirais que c'est un restaurant comme un autre. Le service est fait tout aussi bien, je dirais, que dans les autres restaurants. Enfin voilà, on sert des apéritifs, les équipiers débarrassent. Je veux dire, la seule chose qui change chez nous, c'est que les tables s'appellent salade, tomate ou abricot et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà.
Pourquoi ? Parce que c'était plus facile à retenir ?
Parce qu'en fait, on a une image avec le dessin de la table. D'accord. Donc si c'est salade, on a une photo de la salade et comme ça, l'équipier, parce que tous les équipiers ne savent pas lire et écrire. Donc en fait, avec les images, ils arrivent plus facilement à se retrouver dans la salle.
Une blanquette pour la salade, donc.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça donne côté menu, d'ailleurs ?
Alors pour les menus, on propose 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Au fil des saisons, on n'utilise que des produits de saison et on transforme tout sur place. Et on essaye vraiment d'utiliser aussi des produits locaux. Là, il y a les asperges. Juste devant le restaurant, il y a une vente d'asperges. Donc en fait, quand on en a besoin, on sort et puis on va demander des asperges à 100 mètres sur la place. Donc voilà, on essaye vraiment d'associer aussi des choses qui peuvent surprendre, comme la betterave et le chocolat, on aime bien surprendre.
Et vous êtes en recherche de mécènes, je crois.
Oui, tout à fait. Alors l'idéal, c'est vrai que ce serait des mécènes pérennes, ce qui nous permettrait d'être tranquilles sur 2-3 ans. Comme ça, ça nous enlèverait un petit quelque chose de l'esprit.
Pas besoin de bénévoles, en revanche. Les gens se bousculent pour être bénévoles chez vous.
Oui, c'est ça. Pour l'instant, on est au complet. Après, il y aura peut-être des départs. On le souhaite pas, mais ça bouge. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est au complet et on a une super, super équipe. Franchement, on pourrait pas y arriver sans eux.
Un petit truc en plus, c'est donc à Mulhouse, place de la Paix. Merci beaucoup, chef Aurélie Bernard.
Merci beaucoup. Merci d'avoir fait appel à nous pour qu'on puisse partager notre expérience.
Oui, bonne journée. À bientôt.
À bientôt.
Un message d'auditrice à vous lire. Fanny appartient à l'association en avant les Amazones. Sur le papier, ça paraît pas super joyeux, écrit-elle, car nous sommes une asso de femmes de 35 à 70 ans, toutes passées par la case cancer. Ensemble, nous pratiquons le sport pour renaître, écrit-elle, pour nous réapproprier nos corps, pour garder la maladie à distance et relever des défis. Chaque année, le point d'orgue de notre saison de sport est un périple à vélo pendant 4 jours. Nous parcourons 300 km. Les Amazones, poursuit cette auditrice dans son message, ce sont des sourires, de la joie, de la résilience. C'est du positif dans l'épreuve et pour moi, une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie de malade et ensuite dans ma renaissance. Merci pour ce message, Fanny. En avant les Amazones, association basée à Mulhouse. Vous trouverez un lien sur notre site. Et puis, je voulais aussi vous dire un mot des correspondances poétiques. Isabelle, autre auditrice, nous fait part de ce projet d'envoyer par la poste de la poésie à celles et ceux qui le souhaitent. Avouez qu'il est appréciable de trouver dans sa boîte autre chose que des factures et de la pub. L'abonnement qu'elle propose est payant et on reçoit ensuite tous les mois une lettre manuscrite et un poème. Vous trouverez le contact là aussi sur notre site. Les correspondances poétiques.
France Inter. Carnet de campagne.
Et si nous écoutions la mélodie du paysage ? Nous voici dans le massif des Vosges, toujours dans le Haut-Rhin, du côté de la vallée de Münster. Un musicien, depuis quelques années, enregistre les sons de la nature et les fait dialoguer avec ses propres compositions pour ensuite proposer au public des ballades sonores. Bonjour Jim Petit.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes à Mittlaar, dans la vallée de Münster, village de quelques 300 habitants. Votre projet sonore est baptisé « Cinquième saison ». Vous avez inventé une cinquième saison qui serait un mélange des quatre vrais, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est à partir de chaque saison où j'enregistre le paysage et que je superpose pour faire émerger ce que j'ai appelé une cinquième saison.
Qu'est-ce que ça veut dire enregistrer le paysage ?
Je vais dans la nature qui m'environne autour de chez moi, de ma grange, studio, et je pose mes magnétophones et mes microphones pour enregistrer tout ce qui se passe. Sans choisir, aujourd'hui je vais enregistrer un oiseau. Non, je vais à un endroit bien précis, je pose le microphone et puis je laisse tourner.
Est-ce que vous sauriez dire quand est née cette envie d'enregistrer la nature ?
Alors, je me rappelle qu'en 2004, quand j'ai fait mon premier disque, je m'étais mis au milieu d'une forêt alsacienne avec ma guitare hawaïenne et j'avais enregistré le son de cette guitare slide avec les oiseaux. Et donc, ça vient d'assez loin. Depuis que je suis à Mittlaar, ça fait une petite quinzaine d'années, dans le cadre de mon travail de musicien, je me suis vraiment intéressé aux sons de la nature qui sont autour de moi pour les enregistrer, les triturer, les transformer et les proposer surtout à l'écoute in situ.
Écoutons tout de suite un extrait de votre travail au son des lacs. Quel paysage voyez-vous quand vous écoutez cette composition, Jim ? Vous nous emmenez ?
Alors, c'est le lac d'Altenweyer qui se situe à une heure et demie de marche de chez moi, 960 mètres d'altitude à peu près. Et c'est un lac artificiel que les Allemands avaient construit en 1880. Et malgré qu'il soit artificiel, en fait, c'est le lac, je dirais, le plus sauvage du massif alsacien des Vosges, puisque en plus, il est uniquement accessible à pied. Pour cette composition, en fait, ce que vous avez entendu en l'extrait, il y a un seul instrument qui joue toutes les mélodies, c'est un synthétiseur Moog, les vieilles machines avec plein de boutons.
Et la nature chante aussi dans cet extrait ?
Dans cet extrait, on entend les paysages de chacune des saisons qui sont toutes mélangées. Donc, il y a le son de l'hiver avec du vent sur le lac, vous savez, le son de la risée. Il y a de l'orage de mémoire, il y a des oiseaux, il doit y avoir du vent, et puis les bruits de fond aussi d'une vallée, hein, donc tous les bruits de ruisseaux sont étouffés. Et il n'y a pas d'avion, parce que c'était pendant le confinement que j'ai fait ce travail-là. Ah. Donc du coup, c'était d'une pureté absolue.
Bon, c'est de la musique à écouter in situ, hein, pendant une promenade dans la nature. Comment ça se passe concrètement, ces balades sonores ?
Alors concrètement, donc, ça se passe avec l'office de tourisme à Weidmaster, où le public réserve la place. Maximum 10 personnes, mais même s'il y a une personne, je fais la balade, parce que la rencontre est importante pour moi. Et on part à pied du village de Mittlar, on a pour 1h30, 1h45, 2h de marche, tranquille. Hein. Et une fois qu'on est arrivé au lac, je propose au public de mettre des casques sur leurs oreilles et on écoute la pièce tous ensemble en contemplant le lac, où la musique se mélange à celle qui est à l'extérieur du casque, les mouvements sur l'eau, les nuages, parce que voilà, y a tout un travail rythmique sur le lac qui a été fait en amont.
Alors pardon, je suis peut-être la centième à vous le dire, mais vous vous appelez Jim et vous proposez des balades. C'est la balade de Jim. L'hommage à Souchon est superbe.
Bah écoutez, je prends. La musique de Souchon est bien fichue, donc
ça va.
Je prends avec plaisir.
D'ailleurs, c'est pas seulement des balades sonores, vous proposez aussi des siestes sonores. En quoi ça consiste ?
Ouais, alors les siestes sonores, ça se passe dans ma grange que j'ai aménagée pour recevoir du public. Et pour ce dispositif-là de siestes sonores, c'est avec des huiles essentielles que je produis moi-même avec toutes les plantes sauvages aromatiques qu'il y a autour de chez moi. Donc je distille, je produis l'huile essentielle et j'ai composé de la musique pour chaque plante. Et le public s'installe confortablement dans des hamacs avec tout un système de diffusion que j'ai fait avec des tuyaux de cuivre cintrés. Chaque personne reçoit les douces fragrances de ces plantes sauvages de Mittlar, en écoutant la musique.
Quelle réaction suscitent en général ces expériences auprès du public, que ce soit les balades sonores ou les siestes sonores ?
Ressourcement, reconnexion avec la nature. Pour les gens qui connaissent le coin, une autre découverte dans le domaine plus sensible. Vous voyez, par exemple, quand on se met autour des lacs, pendant 15 minutes, qui est la durée de la pièce musicale, mais en fait, les gens ne parlent pas. Ils sont vraiment dans l'observation du paysage. Et c'est quelque chose qui est pas fréquent, surtout quand on fait des balades en groupe, de s'autoriser un moment de silence et de contemplation. Ça crée une certaine émotion, d'autres perceptions, et puis aussi des histoires, parce que avec la musique de paysage sonore, on peut se raconter des histoires.
Les balades sonores, 5e saison. On trouvera un lien, bien sûr, vers votre site à la page de l'émission. Merci beaucoup, Jim Petit.
Merci beaucoup, Dorothée.
Bonne journée, au revoir.
À vous aussi, à bientôt, au revoir.
Et merci à Sophie Hoffman pour la préparation de cette émission, ainsi qu'à Alexandre Chenet pour la technique. Midi 46, voici Nicolas Stoufflet sur Inter, le jeu des 1000 euros.
Chers amis, bonjour. Il y a ici, à Mauche, une boucherie-charcuterie réputée où on fabrique des saucisses de Strasbourg. Comment appelle-t-on ces saucisses ? En général, on parle de knack, mais il y a un autre nom ici, c'est la Wienerla. Nous sommes à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Mulhouse, dans ce village de Mauche, qui fait partie du parc naturel régional des Ballons des Vosges. C'est à Mauche qu'est situé un important cimetière inscrit récemment au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, cimetière militaire, nécropole nationale. Sur une des collines de Mauche, au-dessus du cimetière, une statue de la Vierge, construite après la Première Guerre mondiale, et où une procession se déroule le 15 août. Près d'une autre colline, parce qu'il y a plusieurs collines ici à Mauche, près d'une autre colline, et près d'un petit cours d'eau, une très belle cascade que l'on nomme cascade du Boubalafels ou cascade de la roche au bébé. Deux autres collines, la colline du Brandebel qui a toujours eu une vocation agricole et d'élevage et la colline du Sandbrouck. Ça va pour l'instant les prononciations, la plus sauvage, qui permettent un point de vue sur toute la vallée. Joli secteur dans cette vallée de la Ture. Des écoles dans la commune, écoles élémentaires, donc maternelles, primaires. Quelques commerces aussi, donc, dont une boucherie-charcuterie, des restaurants, également un boulanger-pâtissier, des auberges. Et un tissu associatif, comme on le dit souvent, bien présent, dont une bibliothèque, la Mine aux Bouquins. Et celle nommée Espérance, qui est propriétaire de la salle dans laquelle nous nous trouvons pour le jeu, dont les protagonistes aujourd'hui sont Émilie Jacob et Michel Auger. Ouais, bonjour Émilie.
Bonjour Nicolas, bonjour Yann, bonjour la salle.
Ben c'est bien, et les auditeurs et les auditrices.
Et les auditeurs.
Ah ben quand même, ils sont plus d'1,7 million, bon, on ne va pas les oublier.
À quoi je pense.
Vous habitez Wittenheim.
Exactement.
Et votre activité professionnelle, Émilie, c'est une passion aussi par la même occasion.
Je travaille actuellement en maraîchage biologique dans un domaine pas trop loin d'ici qui s'appelle le domaine de Hombourg. Je fais des récoltes, de la vente sur le marché de Mulhouse et des livraisons à un réseau de restaurateurs qui comporte des tables étoilées.
Ah quand même, ouais, ouais, belle clientèle alors. Donc qualité de produits, quels sont justement ces produits, ces légumes que vous faites pousser principalement ?
Plantes aromatiques et médicinales, et en ce moment nous avons du jeune ail et également des épinards et beaucoup d'autres plants en préparation, variétés anciennes.
Des passions personnelles, en dehors de cette activité, évidemment, qui, encore une fois, est un métier passion. Quels sont vos loisirs, si vous avez le temps ?
Oui, j'en ai le temps.
Oui.
Je tricote beaucoup. Je fais de la danse contemporaine. Et je lis énormément.
Tout ça en une seule vie. Émilie Wittenheim, qui est venue à Mauche pour le jeu des 1000 euros et qui est aux côtés de Michel Auger. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous habitez Tannes. Tannes, c'est une ville qui est proche d'ici. Vous y exercez une activité qui est fort sympathique, qui consiste à être retraité, c'est ça ?
Précisément. Oui.
Précisément. Et les loisirs, les activités pour vous, Michel, avec ces belles journées ?
Je lis beaucoup, mais... En ce moment, précisément, j'encadre des sorties pour le Club Alpin, des sorties de ski de randonnée.
Ah oui, encore à cette saison ?
Oui, oui, jusqu'en juin.
Par ailleurs, vous êtes bénévole aussi ?
Je suis bénévole à la communauté Emmaüs de Cernay, où je consacre 2 à 3 jours par semaine à trier des livres et à diverses opérations de vente.
La communauté Emmaüs de Cernay, dans le Haut-Rhin, pas loin de Tannes, et donc, par conséquent, pas loin de Mauche, où nous sommes réunis avec vous, Émilie et Michel, pour jouer sur France Inter. Première question bleue de la part de Fernand Malnoux à Saint-Arnoult, dans les Yvelines. De quel peintre est l'œuvre intitulée Des glaneuses, 1857.
François Millet.
Jean-François, oui, c'était Jean-François. Oui. Jean-François Millet, bonne réponse. Des glaneuses. Et l'Angélus, bien sûr, à la même époque. L'un des fondateurs de l'école dite de Barbizon, des scènes paysannes et des scènes champêtres. Une fois, j'avais dit Millet et on m'a repris, je crois qu'il faut dire Millet, Jean-François Millet. Bon, peu importe. Question bleue d'André Morel de La Grave dans le Tarn. Quel était l'emblème de François Ier, emblème qu'on peut voir au château de Chambord d'ailleurs ?
La salamandre.
La salamandre, emblème du roi François Ier. Elle est représentée plus de 300 fois sur les plafonds et les murs du château de Chambord, la salamandre. Question bleue de Jean-Yves Noblet à Vineuil, département du Loir-et-Cher. En 1961, à quel homme d'État doit-on une anthologie de la poésie française ?
Georges Pompidou.
Georges Pompidou, un choix de poèmes et explication de ses choix dans cette anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, 1961. Question blanche envoyée par voie postale par Chantal Barrois qui habite La Riche en Indre-et-Loire. Quel personnage, quel célèbre personnage est à l'origine du mot Eureka ? On lui attribue ce mot. À qui doit-on cette célèbre formule Eureka ?
Archimède.
Le savant grec Archimède. Autre question blanche d'aujourd'hui, de Claude Nourry à Auzouer-en-Touraine. Comment qualifie-t-on une terre qui résiste au feu et à la chaleur ? Terre ou autre matériau d'ailleurs. Comment qualifie-t-on une terre ou autre matériau qui résiste au feu et à la chaleur ? Forte résistance à un facteur physique, chimique, biologique.
Ignifugé ?
Ce n'est pas tout à fait ça. Donc elle résiste naturellement au feu et à la chaleur. C'est une terre, se dit d'un objet ayant une forte résistance à un facteur physique, chimique, biologique. Question reproposée tout à l'heure. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'enchaîne avec cette question rouge. Au nom de Nolwenn Pourruche de Seignos dans les Landes, quel est cet art martial et cet art sportif, disons cette activité sportive, se pratiquant avec un sabre en bois ou en bambou ?
J'essaye. Le kendo ?
Le kendo, bonne réponse, Émilie. C'est le kendo, version moderne de l'escrime au sabre, pratiqué autrefois au Japon par les samouraïs. Le kendo, K-E-N-D-O. Une question à reposer ?
Oui.
Émilie Jacob, Michel Auger, question de Claude Nourry. Comment qualifie-t-on une terre ou un autre matériau qui résiste au feu et à la chaleur ? Mais on associe beaucoup cet adjectif au nom terre. C'est une terre ? Trois points de suspension. Une proposition, on arrive au bout de 15 secondes.
Ignifobe ?
Ce n'est pas ignifobe, c'est réfractaire. Hein ? Vous le saviez ?
Oui.
Une terre réfractaire. Claude Nourry, à Auzouer-en-Touraine, département d'Indre-et-Loire, gagne 30 euros. Rien n'est perdu, Émilie Jacob, Michel Auger. Vous avez répondu à 5 questions sur 6, ce qui veut dire qu'en passant par le repêchage, vous pourrez peut-être tenter le...
Banco ?
Banco. Ah, j'ai un dessin animé à vous faire reconnaître aujourd'hui, c'est le repêchage.
Ferme les yeux, Marge, j'ai une surprise pour toi. C'est bon, tu peux les ouvrir. C'est un revolver, c'est super, hein? Ça c'est la détente et ça c'est ce que tu pointes sur ce que tu veux qu'il meure.
Oh merde, je ne veux pas de revolver chez moi.
Eh pas, je pourrais te l'emprunter demain pour fiche la trouille aux gardes de sécurité de la banque.
Oui, si tu ranges ta chambre.
Non, oh. Personne ne s'en servira. D'après la télé, on a 58% de chances de tuer un de ses proches plutôt qu'un cambrioleur.
Est-ce un extrait des Zinzins de l'espace, de Jumanji ou des Simpsons?
Des Simpsons, bien sûr.
Vous l'aviez reconnu tout de suite, cet extrait des Simpsons. Exactement. Émilie et Michel, vous êtes d'accord? Vous tentez le banco.
Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet sur France Inter.
Question banco de Clémentine Corcellis à Saint-Martin-Curton dans le Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que l'iridothérapie?
Iridothérapie.
H-I-R-U-D-O-T-H-E-R-A-P-I-E. Iridothérapie, avec H-I au début.
Je crois que c'est une thérapie avec les sensus.
Peut-être, moi j'ai aucune idée.
Je crois, mais je...
Je n'ai pas d'idée, alors essaye ça.
Je pense, mais sans grande conviction.
Essaye ça.
Vous voulez proposer une réponse? C'est Émilie peut-être qui va parler, puisque c'est vous, semble-t-il, qui avez une idée.
J'ai une idée.
Est-ce
mais
la bonne?
C'est sans grande conviction.
L'iridothérapie.
Je pense que c'est une thérapie qui consiste à utiliser les sensus.
Les sensus médicinales. L'iridothérapie. Exact. Différentes espèces de sensus peuvent être utilisées. Elles auraient des vertus anticoagulante pour soulager des douleurs du dos, par exemple. Voilà, c'est parfois considéré comme une sorte de médecine, l'iridothérapie. Bravo pour ce banco, voulez-vous poursuivre avec le...
Super banco. Ouais.
Question super banco au nom de Julien Avril à Blois. Comment écrivez-vous, attention parce que la réponse va être un peu longue, donc ne perdez pas de temps. Comment écrivez-vous 2280 en toutes lettres et sans erreur? 2280. Oh, c'est le casse-tête, ça.
Oui.
Je sais pas,
c'est après, le seul qui a un S.
Est-ce qu'il y a eu les traits d'union? Est-ce que dans la nouvelle réforme de l'orthographe...
80, il y a des traits d'union.
Normalement.
Avant, 200, il n'y en a pas.
Non.
Oui, oui.
Ben, moi, je veux
bien répondre. Oui, vas-y, oui, oui.
Tu veux bien?
Oui, oui. Non, non, mais on est d'accord. Je crois qu'on est d'accord.
Alors, je commence par 2000, on décompose. D-E-U-X, espace, M-I-2-L-E, toujours invariable.
2280.
C'est ça, 2280.
Alors, on passe à 200. D-E-U-X, C-E-N-T, invariable. 80, Q-U-A-T-R-E, espace V-I-N-G-T-S.
Et les traits d'union ?
Les traits d'union, oui, on peut en mettre entre tous les mots nombres.
Depuis la réforme de 1990, on peut en mettre partout. Bonne réponse à cette question, super banco ! Et vous n'êtes pas tombé dans le piège qui aurait consisté à mettre un S à 100, puisque 200 est suivi de 80. Félicitations pour ce super banco. Émilie, Jacob et Michel Auger, vous repartez avec les 1000 euros et le livre des chroniques d'André Manoukian, Les pouvoirs extraordinaires de la musique, coédition France Inter HarperCollins. Bonne fin de semaine. À demain sur France 3 à 17h25. Et sur France Inter, à lundi, si le cœur vous en dit.
Et pour les enregistrements du jeu, ça se passe aujourd'hui à Auville dans l'Eure et demain à Bernières-sur-Mer dans le Calvados.